Chapitre 11 Combat. En exergue. L'abordage, l'abordage, on se suspend au cordage, on s'élance des haubans. Victor Hugo, Navarin. Maître Durand, des boulets! Maître Durand, vient de se déclarer une voie d'eau dans la fosse aux lions. Maître Durand, ma tête, mon bras, tenez, voyez comme ça saigne! Et le nom de Maître Durand, le canonnier chirurgien charpentier du bord, retentissait depuis le pont jusqu'à la cale, dominant le bruit et le tumulte inséparables d'un combat aussi acharné que celui qui se livrait entre le brick et la corvette. Et de fait, à chaque volée qu'il envoyait, l'épervier tremblait et craquait dans sa membrure comme s'il eût été sur le point de s'entrouvrir. Maître Durand, des boulets, la voix d'eau, ma jambe, répétaient des voix confuses et pressées. Mais, sacre Dieu, à l'instant, je ne peux pas tout faire. Des boulets envoyés en haut, une avarie à réparer en bas, vos blessures à regarder. Il faut commencer par le plus pressé, et puis on s'occupera de vous, tant de braillards. Car à quoi êtes-vous bon maintenant? Vous êtes aussi inutile qu'une vergue sans voile et sans ralingue. « Mettre des boulets, vite des boulets !»« Des boulets, vrai Dieu, quel coup ! » !»« Oh, mais si on joue cet air-là encore pendant un quart d'heure, nous serons à sec de gargousse !»« Tenez, enfants, et ménagez-les, ce sont les dernières !» Alors M. Durand quitta le sac du canonnier pour prendre le maillet du Calia et se précipita dans la fosse au lion afin d'arrêter la voie d'eau. « Sacrebleu, je souffre bien !» dit Maître Zélie. Il était étendu par terre dans le faux pont, à peine éclairé par un fanal soigneusement fermé. Sa cuisse droite ne pendait plus qu'à un seul lambeau. La gauche avait été entièrement emportée. Autour de lui gémissaient d'autres blessés, jetés pêle-mêle sur le plancher, en attendant que M. Durand pût quitter le maillet pour le couteau. « Sacre bleu, j'ai soif !» continua Maître Zélie. « Me sens faible, c'est à peine si j'entends nos canons parler. Est-ce qu'ils sont enrhumés ?» Au contraire, les bordées étaient plus nourries et plus éclatantes que jamais. C'est que l'audition de Maître Zélie était déjà affaiblie par les approches de la mort. « Oh, j'ai soif !» dit-il encore et froid. « Moi qui avais si chaud tout à l'heure !» Puis, s'adressant à un confrère, « Mais fais donc attention, toi, le Polonais, qu'est-ce que t'as à te redire comme ça ? Oh, crécoquin, est-il laid ? Tiens, voilà ses yeux blancs !» C'en était un qui expirait dans les dernières convulsions de l'agonie. « Durand, viens donc, cordieux !» cria de nouveau Zélie. « Viens voir ma jambe, mon vieux !»« Oui, je suis à toi dans l'instant. Un coup de maillet encore, et l'avarie que nous avions à la flottaison ne paraîtra plus que la trace d'un aviron sur la surface de l'eau. » Alors, à son tour, nous nous sommes donc cognés. « Oui, un peu !» répondit Zélie. Monsieur Durand décrocha le fanal et l'approcha de Maître Zélie, qui grimaça une espèce de sourire, tout fier de la surprise de M. Durand. « Tiens, » dit le chirurgien charpentier canonnier, « où est donc ton autre jambe, farceur ?»« Ben là-haut, sur le gaillard d'avant, encore peut-être. Alors, on va débarrasse-moi de celle-ci, car elle me gêne. On dirait qu'on m'a attaché un boulet de 36 au pied. Oh, j'ai soif, toujours soif. » Tout en examinant la jambe de Maître Zélie, M. Durand secoua 3 ou 4 fois la tête et sifflota, fort bas, il est vrai, l'air du bouton de rose, puis finit par dire « Oh, tu es foutu, mon vieux. Oh, mais là, vrai bien, oh oui, bien. « Alors, si t'es un brave garçon, prends mon pistolet et casse-moi la tête. »« Eh bien, j'allais te le proposer. »« Merci. T'as pas de commission avant? Non, si, tiens, voilà ma montre, tu la donneras à Grinsel. Bien. Allons. Ah, j'oubliais, si le capitaine ne crève pas là-haut comme un mousquet, dis-lui de ma part qu'il a commandé comme un brave. Bien, voyons. Si tu crois que je suis ce qui s'appelle. Oui, foi d'homme, et tu penses bien que je ne voudrais pas faire une farce à un ami. C'est vrai, malgré ça, c'est vexant tout de même. Brrr, quelle foi, je ne puis presque plus parler. Il me semble que ma langue est aussi lourde qu'un morceau de plomb. Oh, tiens, ça tourne. Adieu, vieux, encore une poignée de main. Alors, y es-tu? Oui. Ah, allez, ça ne me manque pas, hein. Feu, me v'la guéri. Il tomba. Pauvre bou, dit Monsieur Durand. Ce fut l'oraison funèbre de Maître Zélie. Monsieur Durand aurait peut-être désiré terminer toutes ses opérations aussi cavalièrement, mais ses autres clients, effrayés de la violence du topic, qui avait pourtant si bien réussi à Maître Zélie, préférèrent des emplâtres d'étoupe et de graisse que l'honnête docteur appliquait indistinctement à tout et pour tout, avec un supplément de consolation pour les mourants. C'était tantôt « Bon, après nous la fin du monde !» ou bien encore « La prochaine campagne devait être rude, l'hiver froid, le vin mauvais, et une foule d'autres gracieusetés destinées à adoucir les derniers moments de ces pauvres pirates » qui avait le souci de quitter une honorable existence sans trop savoir où ils allaient. Monsieur Durand fut interrompu brusquement au milieu de ses soins spirituels et temporels par Grain de sel qui tomba comme une bombe au milieu des 7 agonisants et de 11 morts. « Viens-tu gâter ma besogne, chien ?» dit le docteur. Et le mousse reçut avec cette admonition un soufflet assommé un rhinocéros. Non, non, maître Durand, au contraire, on demande des gargousses là-haut, car on vient d'envoyer la dernière volée. C'est la corvette anglaise qui tient bon tout de même. Elle est rase comme un ponton et elle fit un feu qu'on n'y voit pas. Ah, et puis j'ai un doigt emporté par un biscaïa. Tenez, maître Durand. « Veux-tu pas que je perde mon temps à regarder ton égratignure, gredin chien ?»« Merci, monsieur Durand. Le fait est qu'il vaut mieux ça qu'un bras de moins, » dit Grain de sel en tortillant à la hâte son tronçon de doigt dans de l'étoupe. « Mais tenez, » ajouta-t-il, « voilà une pratique qui vous arrive, maître. » C'était un blessé qu'on descendait dans le faux pont. Comme il était mal attaché, il tomba et s'acheva sur le panneau. « Encore un guéri !» dit Maître Durand, qui était absorbé, pensant à remédier au manque de boulets. « Des gargousses, en haut, des gargousses !» crièrent plusieurs voix avec un accent de terreur. « Sacrebleu, quand on devrait changer les caronades avec des moussons, fera feu sur l'anglais !» s'écria Maître Durand en montant rapidement sur le pont. Grain de sel le suivait, ne sachant pas si l'intention que le maître avait manifestée de l'employer comme projectile était une plaisanterie ou non. Mais, fidèle à son système de consolation, il se dit « Oh, j'aimerais encore mieux ça que d'être pendu par les Anglais !» Chapitre 12. Combat, en exergue, silence, tout est fait, tout retombe à l'abîme, l'écume des homards recouvert la cime. Victor Hugo, Navarin. « Eh bien, des boulets où nous sommes coulés comme des chiens !» cria Kernoc à Maître Durand, aussitôt que celui-ci parut sur le pont. « Pas un !» dit le docteur en grinçant des dents. « Oh, que mille millions de tonnerres enlèvent le brick et rien, rien, pour recevoir l'Anglais qui va nous aborder. Tiens, Chagol, regarde. Et se disant, Carnoc poussa Durand contre le bastingage qui tombait en morceaux. En effet, quoique la corvette fût horriblement avariée, elle venait vent arrière sur le brick sous un lambeau de sa misaine, tandis que l'épervier, qui avait perdu toutes ses voiles et ne gouvernait plus qu'au moyen de son foc et de sa brigantine, ne pouvait éviter l'abordage que l'Anglais voulait tenter, étant bien supérieur en nombre. « Pas un boulet, pas un boulet, Saint-Nicolas, Sainte-Barbe et tous les saints du calendrier. Si vous ne venez pas à mon aide, cria Kernock dans un état d'effroyable exaspération, je jure d'aller chamberner et bouleverser vos niches comme je brise ce compas. Et que le tonnerre m'écrase s'il reste pierre sur pierre d'une seule de vos chapelles sur toute la côte de Paimpoule. » Et le prisonnier, pirate, écumant de colère, avait mis en pièces une des boussoles qui se trouvait près de lui. Il paraîtrait que tous les saints que Kernock implorait si brutalement voulurent se conduire en gens canonisés. Des hommes auraient puni le téméraire. Des demi-dieux vinrent à son secours, montrant par là combien leur essence éthérée était supérieure à nos intelligences étroites et rancunières. Aussi, à peine Kernock eut-il terminé sa singulière et effrayante invocation, que, frappé d'une idée subite, d'une idée d'en haut peut-être, il s'écria en rugissant de joie, « Les piastres, cordieux, mes garçons, les piastres! Changeons-en nos pièces jusqu'à la gueule! Cette mitraille-là vaut bien l'autre! L'Anglaise veut de la monnaie, elle en aura, et de la toute chaude, qui en sortant de nos canaux ressemblera plutôt à des lingots de bronze qu'à de bonnes gourdes d'Espagne. Allez, les piastres sur le pont, les piastres! Cette idée électrisa l'équipage. Maître Durand se précipita dans la soute et l'on roula sur le pont 3 barils d'argent, 150 000 livres environ. « Hurrah, bons Anglais !» crièrent les 19 pirates qui restaient en état de combattre, noirs de poudre et de fumée et nus jusqu'à la ceinture pour manœuvrer plus à l'aise. Une sorte de joie féroce et délirante les exalta. « Les chiens d'Anglais ne chanteront pas que nous sommes avares, dit l'un, car cette vitraille-là va bien payer le chirurgien qui les pansera. On voit que nous nous battons avec une dame. Sacrebleu, quelle galanterie, des boulets d'argent. Mais on soigne la corvette, dit un autre. Oh, je ne demanderai qu'une gargousse comme ça, de haute paye, pour m'amuser à Saint-Paul, répète un troisième. » Et de fait, on jetait l'argent à poignées dans les caronades, on les engorgeait. 50 000 écus y passèrent. À peine toutes les pièces étaient-elles chargées, que la corvette se trouvait près du brick, manœuvrant de manière à engager son beaupré dans les haubans de l'épervier. Mais Kernock, par un mouvement habile, passa au vent de l'Anglais et une fois là, se laissa dériver sur lui. À 2 portées de pistolet, la corvette lâcha sa dernière bordée. Car elle aussi avait épuisé ses munitions. Elle aussi s'était battue bravement et avait fait des prodiges de courage depuis 2 heures que durait ce combat acharné. Malheureusement, la houle empêcha les Anglais de pointer juste et toute leur volée passa au-dessus du corsaire sans lui faire aucun mal. Un matelot du brick fit feu avant l'ordre. Le chien détourdi, s'écria Kernock. Et le pirate roulait à ses pieds, abattu d'un coup de hache. Et surtout, s'écria-t-il, ne faites feu que lorsque nous serons bord à bord, qu'au moment où les Anglais iront pour sauter sur notre pont, nos canons leur crachent au visage, et vous verrez que cela les vexera, soyez-en sûrs. À cet instant même, les deux navires s'abordèrent. Ce qui restait de l'équipage anglais était dans les haubans et sur les bastingages, la hache au poing, le poignard aux dents, prêts à s'élancer d'un bond sur le pont du brick. Un grand silence à bord de l'épervier. Away, Goddam, away, Lascars! S'écria le capitaine anglais, beau jeune homme de 25 ans, qui, ayant eu les deux jambes emportées, s'était fait mettre dans un baril de son pour arrêter l'hémorragie et pouvoir commander jusqu'au dernier moment. Eh oui, Goddam, répéta-t-il. Feu maintenant, feu sur l'anglais, hurla Kernock. Alors tous les Anglais s'élancèrent sur le brick. Les 12 caronades de tribord leur vomirent à la face une grêle de piastres avec un fracas épouvantable. Hurrah! Cria l'équipage tout d'une voix. Quand l'épaisse fumée se fut dissipée et qu'on put juger de l'effet de cette bordée, on ne vit plus aucun Anglais, aucun. Tous étaient tombés à la mer ou sur le pont de la corvette, tous étaient morts ou affreusement mutilés. Au cri du combat avait succédé un silence morne et imposant. Et ces 18 hommes qui survivaient seuls, isolés au milieu de l'océan, entourés de cadavres, ne se regardaient pas sans un certain effroi. Kernock lui-même fixait les yeux avec stupeur sur le tronc informe du capitaine anglais, car la mitraille d'argent lui avait encore emporté un bras. Ses beaux cheveux blonds étaient souillés de sang, pourtant le sourire lui restait sur les lèvres. C'est qu'il était mort, sans doute, en pensant à elle qui, baignée de larmes, allait revêtir de longs habits de deuil en apprenant sa fin glorieuse. Heureux jeune homme! Il avait peut-être aussi sa vieille mère pour le pleurer, lui qu'elle avait bercé tout petit enfant. C'était peut-être un avenir brillant qui avortait, un nom illustre qui s'éteignait en lui. Quels regrets il devait laisser! Combien on devait le plaindre! Heureux, trois fois heureux jeune homme! Que ne devait-il pas à la couleuvrine de Kernock? D'un boulet, elle en avait fait un héros pleuré dans les trois royaumes. Quelle belle invention que la poudre à canon! Tel devait être à peu près le résumé des réflexions de Kernock, car il resta calme et riant à la vue de cet horrible spectacle. Ses matelots, au contraire, s'étaient longtemps regardés avec une espèce d'étonnement stupide. Mais, ce premier mouvement passé, le naturel insouciant et brutal reprenant le dessus, tous, d'un mouvement spontané, crièrent « Hurrah! Vive l'épervier, le capitaine Kernock !»« Hurrah, mes garçons !» reprit celui-ci. « Eh bien, vous le voyez, l'épervier a le bec dur. Mais il faut maintenant songer à réparer nos avaries. » Suivant mon estime, nous devons être du côté des Açores. La brise fraîchit. Alors, enfants, nettoyons le pont. Et quant aux blessés, oh, quant aux blessés, répéta-t-il d'un air pensif, en frappant machinalement le bastingage avec sa hache d'armes, tu les feras porter à bord de la corvette, maître Durand, dit-il brusquement. Pour? Demanda celui-ci d'un air interrogatif. « Oh, tu le sauras !» répondit Kernock d'un air sombre en fronçant ses épais sourcils. Maître Durand fut remplir les ordres du capitaine en murmurant « Que veut-il en faire? C'est louche !»« Mousse ici !» cria Kernock à Grenzel, qui essuyait d'un air triste la montre que Maître Zélu lui avait léguée, car elle était toute couverte de sang. Le mousse leva la tête. Des larmes roulaient dans ses yeux. Il s'avança près du terrible capitaine sans penser à trembler. Une idée fixe le dominait. C'était le souvenir de la mort de Maître Zélie, auquel il était vraiment bien attaché. « Tu vas descendre à Fontcalle et dire à ma femme qu'elle peut venir m'embrasser. Entends-tu » dit Kernoc. « Oui, capitaine, » répondit Grancel. Et une grosse larme tomba sur la montre. Il disparut aussitôt par le grand panneau pour chercher Mélie. Kernoc monta avec agilité dans les hunes, examina le gréement avec la plus scrupuleuse attention. Les avaries étaient nombreuses, mais pas inquiétantes, et avec le secours de mâts et de vergues de rechange, il vit bien qu'il pourrait continuer sa route et regagner le port le plus voisin. Grain de sel remonta sur le pont, mais seul. « Eh bien, » dit Kernoc, « où est donc ma femme, Butor ?»« Mais capitaine, c'est que... »« Mais c'est que quoi? Parleras-tu, chien ?»« Capitaine, elle est dans la cale. Ben, »« Je le sais bien, mais pourquoi ne monte-t-elle pas, gredin ?»« Oh, dame, capitaine, c'est qu'elle est morte. » « Morte ? Morte ?» dit Kernoc en pâlissant. Et pour la première fois, sa figure exprima la douleur et l'angoisse. « Oui, capitaine, morte derrière une caisse à eau, tuée par un boulet qui est entré au-dessus de la flottaison. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que le corps de madame, votre femme, a bouché juste le trou que le boulet avait fait. Sans cela, l'eau entrait et le brick était coulé. Madame, votre femme, a sauvé l'épervier tout de même. Et il vaut mieux ça pour elle que... » Grain de sel, qui avait baissé les yeux au commencement de sa narration, ne pouvant soutenir le regard étincelant de Kernoc, se hasarda à lever la tête. Kernoc n'était plus là. Il s'était précipité dans la cale et il regardait, les yeux secs, les bras croisés, les poings convulsivement serrés. Car, suivant le rapport du mousse, la tête et une partie de l'épaule de Mélie, broyée dans le trou du boulet, avaient empêché le projectile d'aller plus loin. Pauvre Mélie! Sa mort même avait été utile à son Kernoc. Le pirate resta seul environ 2 heures, enfermé dans la cale près des restes de Mélie. Là, il usa sa douleur, car lorsqu'il remonta sur le pont, sa figure était impassible et froide. Seulement, un peu avant son retour, un cri douloureux s'était fait entendre et une masse informe avait disparu au milieu des eaux. C'était le cadavre de Mélie. Pendant ce temps, Maître Durand avait fait porter les blessés sur la corvette anglaise. « Mais pourquoi ne nous laissons pas à bord du brick ?» demandait-il avec insistance au bon docteur. « Oh, mes enfants, je n'en sais rien. C'est peut-être parce que l'air est meilleur ici, et dans les blessures graves, il faut changer d'air, c'est connu. Mais Maître Durand, voilà qu'on emporte pour le brick toutes les vergues et les mâts de rechange de la corvette. Comment allons-nous donc naviguer ? » ?»« Peut-être par la vapeur, » répondit M. Durand, qui ne pouvait résister au plaisir de faire une plaisanterie. « Tiens, vous vous en allez, Maître Durand, et vous aussi, camarade. Eh bien, et nous, Maître Durand, Maître Durand !» Ainsi disaient les blessés, assez fort pour crier, mais non pas pour marcher, en voyant le chirurgien canonnier charpentier descendre dans son canot et regagner le brick avec son équipage. Oui, le plus souvent, que c'est pour nous faire changer d'air qu'on nous envoie ici, dit un Parisien qui avait un bras de moins et un biscaïen dans la colonne vertébrale. Eh bien, pourquoi nous y envoie-t-on, Parisien ? Demandèrent plusieurs voix avec inquiétude. « Pourquoi ? Dans le but de nous faire crever, pendant qu'ils profiteront de nos parts de prise. » Comme c'est malin ! Seulement, ils avaient eu pour 2 liards de cœur, Ils auraient fait une trouée dans la cale pour nous couler, au lieu de laisser ici de bons enfants s'entre-dévorer comme des requins. Ce sera dans le genre du colin que j'ai vu au Mont-Tabor chez M. Franconi. Et ici, sa voix commence à faiblir, car je viens de leur entendre dire qu'il ne restait pas de vivres à bord de la corvette et que c'est en partie pour s'en procurer qu'elle nous avait donné la chasse. C'est vexant, tout de même, de mourir quand on est riche, car avec ma part de prix, je m'en serais joliment donné à Paris. Dieu, la chaumière, le vauxhall, l'ambigu et les demoiselles. Oh, oui, c'est vexant, car maintenant, le temps de nouer une garcette et je serai cuit. Je sors déjà plus mes jambes, puis on dirait que mon cœur se retourne. Adieu, les autres. Oh, c'est pour vous que ça va être sciant, car vous n'êtes pas tendre, mes agneaux. Vous serez joliment coriace, et pour vous avaler, il faudra une fameuse sauce. Sa langue devint alors tellement embarrassée qu'il fut impossible d'entendre un mot. 5 minutes après, il était mort. Le Parisien avait deviné juste. Il est impossible de rendre les imprécations et les malédictions dont Kernock et le reste de l'équipage furent accablés. Un blessé anglais, qui comprenait le français, fit part à ses compatriotes de la destinée qui les attendait. La rumeur augmenta. Chacun jurait et blasphémait dans sa langue. C'était un bruit à réveiller un chanoine. Mais tous ces malheureux étaient trop grièvement blessés pour pouvoir se lever. Et d'ailleurs, pas d'embarcation. Il y en eut plusieurs qui se roulèrent près de la coulée des bastingages et se laissèrent tomber à la mer, prévoyant toute l'horreur du sort qui était réservé à leurs compagnons. « C'est fait !» dit Maître Durand à Kernock dès qu'il fut de retour. « Nous sommes parés, répondit Kernock. La brise fraîchit du sud. Avec cette huisaine pour grand voile et les perroquets au lieu de hunier, nous pouvons faire route. Oriente grand large et met le cap au nord-ouest. » Ainsi, dit Maître Durand en montrant la corvette qui se balançait désemparée, ces pauvres diables, nous les laissons là ? Oui, répondit Kernock. C'est tout de même un procédé peu délicat. Oh, vrai, mais c'est du s'il nous reste de vivre à bord grâce à la fête que je vous ai donnée, sauvage. Non. Eh bien, il nous reste un baril de biscuits, 3 tonnes d'eau et 1 caisse de rhum, car vous avez gaspillé en un jour les vifs de 3 mois. Oh, c'est autant de notre faute que de la leur. Mais bon, nous avons encore peut-être 800 lieues à faire et 18 matelots à nourrir. Or, ceux-là doivent passer avant tout, car ils sont en état de manœuvrer. Mais ce que vous laissez sur la corvette vont crever comme des chiens ou se manger les uns les autres, car demain, après-demain, ils auront faim. Oh, je m'en moque qu'ils crèvent. Il vaut mieux que ce soit ceux qui sont à moitié morts que nous autres qui avons encore du câble à filer. Les matelots du brick entendaient cette conversation. Ils commencèrent à murmurer. « Ah, nous ne voulons pas abandonner nos camarades » dirent-ils. Kernock promena sur eux son coup d'œil d'aigle, mit sa hache d'armes sous son bras, croisa ses mains derrière son dos et dit d'une voix impérieuse « Hein, vous ne voulez pas ?» On fit silence, profond silence. « Je vous trouve encore de singuliers animaux » s'écria-t-il. « Sachez donc, canaille, que nous sommes à 800 lieues de notre terre. Il faut compter sur au moins 15 jours de traversée, et que si nous gardons les blessés à bord, ils soifferont toute notre eau, et nous ne servirons pas plus qu'un aviron à 3 ponts. C'est vrai, interrompit le canonnier chirurgien charpentier, rien ne boit comme un blessé, c'est comme l'ivrogne, c'est desséchant. Et quand nous serons sans eau et sans biscuits, est-ce Saint-Kerdoc qui nous en enverra? Nous sommes obligés de manger notre chair et de boire notre sang, comme ils vont faire du reste. Belle chienne de nourriture! Ça vous tente, n'est-ce pas, las de Lascar que vous êtes? Au lieu qu'en tâchant de rallier Bayonne ou Bordeaux, nous pouvons revoir la France et y vivre en bon bourgeois avec notre part de prise, qui ne sera pas mince puisqu'elle sera augmentée de la leur, ajouta Kernoc en désignant les blessés de la corvette. Cet argument calma victorieusement les derniers scrupules des récalcitrants. Enfin, dit Kernoc, ce sera comme ça parce que je le veux. Est-ce clair, hein? Et le premier qui ouvre la bouche, je la lui fermerai, moi, avec la coquille de mon poignard. Allons, Cordieu, courons grand large une bordée au nord. Les 18 hommes qui composaient alors l'équipage obéirent en silence, jetèrent un dernier regard sur leurs compagnons, leurs frères, qui poussaient des cris affreux en voyant le brick s'éloigner. Puis, comme la brise fraîchit beaucoup, l'épervier fut bientôt loin du lieu du combat. Mais le lendemain, une horrible tempête s'éleva. D'énormes montagnes d'eau semblaient à chaque minute devoir submerger le brick, qui, hormis à la cape, fuyait devant le temps sous sa pouillousse. Enfin, après une traversée pénible, l'épervier atteignit Nantes. Il relâcha pour réparer ses avaries et, suivant les vœux de Kernoc, reprit la mer pour venir mouiller encore une fois dans la baie de Pampoule. Là, une commission d'enquête fut fourrée pour vérifier la légalité de la prise. Alors Kernoc jura tous ses jurons qu'il irait désormais débarquer à Saint-Thomas puisque ses cormorants d'administrateurs venaient pêcher dans ses eaux. Ce furent ses propres expressions. Chapitre 13. Les deux amis. En exergue, une âme si rare et exemplaire ne coûte-t-elle pas non plus à tuer qu'une âme populaire et inutile? Montaigne, livre 2, chapitre 13. C'est une bonne auberge que l'auberge de l'Encre d'Or à Plonezoc. Près de la porte s'élèvent deux beaux chênes verts et touffus qui ombragent des tables de noyer toujours engageantes tant elles sont soigneusement cirées. Et comme l'Encre d'Or est placée sur la grande place, il n'y a pas de coup d'œil plus animé, surtout à l'heure du marché, par une belle matinée de juillet. Aussi, deux honnêtes compagnons, deux appréciateurs de cette heureuse localité, avaient pris racine devant une de ces tables si luisantes et si polies. Ils causaient de choses et d'autres, et la conversation devait durer depuis longtemps, car un bon nombre de bouteilles vides formaient un imposant et diaphane rempart autour des interlocuteurs. L'un pouvait bien avoir 60 ans, fort laid, fort bon, fort trapu, avait de larges et longs favoris tout blancs, qui tranchaient d'une manière bizarre avec son teint basané. Il était vêtu d'un vaste habit bleu, grotesquement taillé, d'un large pantalon de toile et d'un gilet écarlate aux boutons à ancre, trop court au moins de 6 pouces. Enfin, un immense col de chemise roide et empesé se dressait menaçant bien au-dessus des oreilles de ce personnage. En outre, de larges boucles d'argent brillaient à ses souliers et un chapeau verni, impertinemment posé sur le côté de sa tête, achevait de lui donner un air crâne et coquet qui contrastait singulièrement avec son âge avancé. Au reste, il était évidemment en toilette et paraissait gêné dans ses atours. Son ami, d'une mise moins recherchée, paraissait beaucoup plus jeune. Une veste et un pantalon de drap composaient toute sa parure, et une cravate noire, nouée négligemment, permettait de voir son cou nerveux, qui supportait une figure hâlée, mais riante et ouverte. « Vienne là, Saint-Saturnin » dit-il en frappant légèrement le fourneau de sa pipe sur la table pour en faire sortir toute la cendre. « Vienne là, Saint-Saturnin, il y aura 20 ans que l'épervier !» Ici, il ôta sa toque de laine à carreaux rouges et bleus, que notre pauvre brique aura mouillé pour la dernière fois dans la baie de Pampoule, sous le commandement de feu M. Kernoc. Et il soupira en secouant la tête. « Comme le temps passe !» reprit l'homme au grand col de chemise, en avalant un énorme verre d'eau de vie. « Il me semble que c'était hier, n'est-ce pas, grain de sel ? Et je t'appelle toujours grain de sel entre nous, parce que tu me l'as permis, mon garçon. Hé hé, cela me rappelle notre bon temps. » Et le vieillard se prit à rire doucement. « Sacre Dieu, ne vous gênez pas, monsieur Durand. Vous êtes un ancien, vous, un ami de ce pauvre monsieur Kernoc. » Et il leva encore les yeux au ciel en soupirant. « Que veux-tu, mon garçon ? Quand vient l'heure de déraper ?» dit monsieur Durand, en humant avec un long sifflement une goutte de vin qui restait au fond de son verre, vide depuis longtemps. « Quand la camarde vous tient à pic, il faut bien que le câble cède. C'est ce que je disais toujours à mes malades, à mes calfas ou à mes canonniers, car tu sais... « Oui, oui, je sais, maître Durand, » répondit aussitôt Grain de sel, qui tremblait d'entendre l'ex-canonnier chirurgien charpentier de l'épervier recommencer le récit de ses triples exploits. « Mais c'est plus fort que moi, ça me fend le cœur, quand je pense qu'il y a encore un an, ce pauvre monsieur Kernoc était là-bas, dans sa ferme de Tréherel, et que nous fumions tous les soirs une vieille pipe avec lui. » « C'est vrai, grain de sel. Dieu de Dieu, quel homme ! Était-il aimé dans ce canton ? Un malheureux matelot lui demandait-il quelque chose, il l'obtenait à l'instant. Enfin, depuis 20 ans qu'il s'était retiré des affaires pour vivre en bourgeois, il n'y avait qu'une voix sur sa bienfaisance. Et puis, quelle respectable figure lui donnait ses grands cheveux blancs et son habit marron ! Avait-il l'air bonhomme quand il portait sur son dos les petits enfants du vieux Cérisorette, le canonnier, ou qu'il leur faisait des bateaux de sureau? Seulement moi, je lui faisais toujours un reproche à ce pauvre Kernoc. C'était de donner dans la calotte. Ah oui, parce qu'il était marguillé, bon, c'était pour tuer le temps. Mais avouez tout de même qu'il représentait joliment dans son banc de chêne, avec ses gants blancs et son jabot, le jour de fête de la paroisse de Saint-Jean-du-Doigt. J'aimais mieux le voir sur son banc de car, une hache à la main et sa corne d'amorce en sautoir, répondit l'ex-canonnier charpentier chirurgien en remplissant son verre. Et à la procession donc, maître Durand, quand il rendait le pain béni, se dandinait-il avec son cierge qui voulait toujours tenir comme une épée, malgré les leçons de l'enfant de cœur. Mais ce qui désolait surtout monsieur le curé, c'est que le capitaine Kernoc, chiquetant, qu'à la messe, il crachait sur tout le monde. Ça le désolait, oui, ça le désolait. C'est donc pour ça qu'il a embêté mon vieux camarade, pour lui faire laisser au presbytère 20 arpents de ses meilleurs prés. Ici, Grain de sel allongea beaucoup la lèvre inférieure en clignotant des yeux, regarda Maître Durand de l'air le plus fin, le plus malicieux, le plus narquois qu'il lui fût possible d'improviser en secouant la tête d'un air négatif. « Oh, sacrebleu, je le sais bien !» répéta Maître Durand, presque offensé de la pantomime de l'ancien mousse. « Allons, allons, soyez calme, maître Durand, » reprit celui-ci. « Ce n'est pas au curé qu'il a fait cette donation. » Ici une pause, ici l'étonnement de maître Durand se manifesta par l'écarquillement excessif de ses paupières et par l'absorption d'un glorieux verre de vin. C'est, dit Granselle, c'est à la nièce du curé. Oh, le vieux farceur, le vieux farceur, murmura maître Durand en poussant un éclat de rire tout homérique. Je ne m'étonne plus s'il était marguillé, et s'il rendait le pain béni. Et il se laissa aller avec Granselle à des éclats de gaieté si bruyants que les chiens qui passaient en aboyèrent. Ce qu'il y a de vexant, reprit Granselle, c'est que toute la fortune de M. Carnoc retourne au gouvernement, et cela parce qu'il n'a pas fait de testament. Pas le y penser. Fit, qu'est-ce qui pouvait prévoir cet accident-là? Vous l'avez vu, vous, après la chose, n'est-ce pas, M. Durand? Car moi, j'étais allé à Saint-Paul. Sûr que je l'ai vu. Figure-toi, mon garçon, qu'on vient me dire. Monsieur Durand, ça sent brûlé chez M. Carnoc, mais un drôle de brûlé. Il était, ma foi, 8 heures du matin et personne n'osait entrer dans sa chambre. Ils sont si bêtes. J'y entre, moi, mon garçon, et... Oh, mon Dieu! Tiens, donne-moi à boire, car ça me fait mal toutes les fois que j'y repense. Il se remit un peu par un large trait d'eau de vie et continua. J'y entre, et figure-toi, que je manque d'être suffoqué en voyant le corps de mon pauvre vieux Carnoc tout couvert d'une large flamme bleue qui courait de la tête aux pieds, tout juste comme la flamme du punch. Je m'approchai, je jetai de l'eau, il brûlait plus fort car il était à moitié cuit. Granselle pâlit. Oh, ça t'étonne, mon garçon, eh bien moi, je m'y attendais, je l'avais prédit. Prédit? Oui, il buvait trop d'eau de vie, et je lui disais toujours, « Mon vieux camarade, tu finiras par une concussion instantanée !» dit maître Durand avec importance, en appuyant sur chaque mot et en gonflant ses joues. « Concussion instantanée », il voulait dire une combustion instantanée, solution exacte et vraie de la mort de Carnoc, donnée par un médecin de Quimper, fort habile homme, qu'on avait mandé un peu tard. Et ça vous fait pas trembler, monsieur Durand? Dit Granselle, qui voyait avec peine l'ex-canonnier chirurgien charpentier prendre la même direction que son défunt capitaine. Oh, moi, non, c'est bien différent, mon garçon. Je coupe mon eau de vie avec du vin. Mais il la buvait pure, le vieux Lascar. Ah? Répondit Granselle, peu convaincu de la tempérance de M. Durand. Tiens, dit celui-ci, en voilà un qui mourra dans la peau d'un voleur, si on ne décorche pas tout vif. Et il montrait un grand homme sec et mince, à uniforme bleu, brodé d'argent, qui traversait la place. Que je voudrais être à bord avec ce chien de plique! Lui, les bras attachés à une échelle de hauban, le dos nu, et moi, une bonne garcette à la main. Quand je pense que pour avoir passé par les mains de ce gueux commissaire, nos parts de prise ont diminué de 9/10, et qu'au lieu d'avoir les 60 000 francs qui me font vivre depuis 20 ans, je devrais peut-être avoir 1 million, et que ce pauvre vieux Carnoc n'en a eu en tout que 200 000 francs, sur les tonnes d'argent qui nous revenaient du trois-mâts espagnol. Bah, reprit Granselle, un peu plus, un peu moins. J'ai tout de même été bien content de quitter le métier avec ce que j'ai eu, et de pouvoir m'acheter un chasse-marée pour faire le cabotage. Mais c'est depuis que je ne vois plus ce bon monsieur Carnoc que quelque chose me manque. À propos, reprit monsieur Durand, je crois que voici bientôt l'heure de service que nous lui faisons faire à Saint-Jean-du-Doigt, à ce pauvre vieux. Granselle tira une montre d'argent d'au moins 1 pouce d'épaisseur. Oh, vous avez raison, monsieur Durand, il est 10 heures. puis allongeant sa montre, attachée avec soin à une longue chaîne d'acier renforcée d'un cordonnet noir. « Tenez-la, reconnaissez-vous ? » dit-il au maître. « Oh, si je la reconnais, c'est celle que ce pauvre Zélie m'a dit de te remettre le jour du combat de l'épervier contre la corvette. Pauvre Zélie, je le vois encore me tendant la main et me disant « Tiens, c'est pour le Rensel, adieu. Vieux, ne me manque pas. Sacrebleu, dit le vieillard tout ému. Ça me fait plus de peine en y pensant maintenant que ça ne m'en a fait dans le moment. Pauvre Zélie. » Et la tête de M. Durand retomba dans ses mains calleuses et ridées. Un grain de sel paraissait absorbé par un douloureux souvenir en regardant sa montre. « Ça nous fait 5 livres et une bouteille d'eau-de-vie, » dit l'aubergiste, son bonnet à la main, et inquiet du séjour prolongé des deux marins. « Paye-toi là-dessus, » dit Grancel en lui jetant une pièce d'or. Et donnant le bras au vieux Durand, il gagna avec lui la chapelle de Saint-Jean-du-Doigt. Chapitre 14 et dernier, la messe des morts. En exergue, elle frappe les airs comme le glas funeste qui demande aux vivants des larmes pour les morts, alors qu'un froid cercueil est tout ce qui nous reste de celle qui sourit à nos premiers efforts. Sextius de Launay, œuvres inédites. Figurez-vous une anse resserrée entre deux montagnes, dans laquelle une foule de bateaux bretons aux voiles rouges et carrées viennent aborder en s'échouant sur un beau fond de sable d'une blancheur éblouissante. Au fond, c'est la mer, dont les flots bleus, après avoir prolongé les contours de la baie, viennent mourir sur de fraîches prairies, toutes coupées de haies de cerisiers sauvages et d'aubépines en fleurs qui répandent au loin leur parfum. Ça et là, quelques chênes séculaires soutiennent un toit de chaume couvert de jolies pervenches bleues et de clématites qui pendent en longues guirlandes. Pour animer ce paysage, tantôt c'est une chèvre dressée sur ses pattes de derrière qui paraît suspendu à ses festons verdoyants. Tantôt, c'est la mince charrette traînée par de grands bœufs, et le cri rauque et continu de l'essieu, et la chanson sauvage du bragoubras, et l'allure rapide du montagnard d'Arès, qui monte accru à de ses petits chevaux noirs, aux poils frisés, à l'œil saillant, aux jambes nerveuses, qui gravissent les mornes de la côte avec autant de légèreté qu'un chamois. Puis, au milieu de cette colline dont la pente est presque insensible, on voit les bâtiments consacrés à Saint-Jean-du-Doigt. Ici l'église gothique, avec ses arceaux et ses ogives, ses longues et frôles colonnes, ses frontons découpés à jour comme une légère dentelle, contraste singulièrement avec le lourd clocher de plomb qui élève son faîte gris et terne au-dessus de la sombre verdure des mélèzes et des sapins. Les tintements redoublés de toutes les cloches de l'église de Saint-Jean annonçaient la cérémonie dont nous avons parlé, un service funèbre pour l'âme de feu M. Barbe Nicolas Kernock, propriétaire à Tréherel. Or, toute la population du canton, dont le digne vieillard était adoré, avait quitté ses travaux pour venir rendre un dernier hommage à son respectable bienfaiteur. Il fallait voir quelle foule se pressait sous le porche de l'église, et les jeunes filles aux corsets d'écarlate brodés de bleu à la blanche coiffe, et les vieilles femmes avec leurs capes qui les cachaient, et les hommes avec leurs barrettes noires, tous échappés de longs cheveux qui tombaient sur leur large ceinture de cuir où était passé un large couteau. Tout cela se heurtait et devisait en attendant que les portes fussent ouvertes. Bientôt arrivèrent Grain de Sel et Maître Durand. À leur aspect, toutes les têtes s'inclinèrent. Eux ne répondirent que par un salut protecteur à ces marques de déférence. Enfin, la porte s'ouvrit, chacun se rua, se heurta, se coudoya, et chacun fut casé. Le soleil dardait joyeusement ses rayons dorés à travers les vitraux coloriés de la chapelle, et venaient réfléchir leurs mille nuances sur le banc de chêne noir et poli, tout chargé de lourdes sculptures, sur le banc où s'épanouissait Kernok au jour solennel. Hélas, qu'il était bien, avec quelle dignité calme il étalait son immense jabot et son habit marron, avec quelle adresse il dérobait sa chique à l'œil du curé, avec quel air de componction il fermait les yeux, feignant de prier et de se recueillir, alors que le prône du prédicant l'affectait de la plus agréable somnolence. Et il fallait que le souvenir de cette figure vénérable fut encore bien présent à la pensée de Grainsel et de M. Durand, car ils s'arrêtèrent immobiles devant le banc d'œuvre. « Mais je crois toujours le voir, » dit M. Durand. « Et moi aussi, » répondit Grainsel. Une rumeur sourde annonça l'arrivée de M. Caradec, le desservant de la paroisse. Il officia. Après l'office, M. le Caradec monta en chaire. Alors les fidèles saisirent ce moment pour éternuer, se moucher, tousser, bâiller, soupirer, se tourner, se retourner. Puis on fit silence, mais un grand silence. Le prédicateur s'avança sur le bord de sa tribune, y étala des mains osseuses et velues. Ses yeux brillaient sous ses épais sourcils roux, et sa bouche grimaçait d'un singulier sourire. Mais il commença. « Mes chers frères, apprehendite ab extremis terrae, et alunguinquis eius iocavite, elegite et non abiecite, ne timeas, quia ego te cum sum. » Comme l'auditoire se composait de bas-bretons renforcés, cet exorde fit peu d'effet. « Oui, mes frères, ce qui veut dire, je t'ai pris par la main pour te ramener des extrémités de la terre. Je t'ai appelé des lieux les plus éloignés. Je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains rien, parce que je viens à toi. Or, mes frères, ces paroles peuvent s'appliquer aux vertueux, aux dignes, aux respectables vieillards que nous pleurons tous, en un mot à Barbe Nicolas Kernok, ancien négociant. » Ici, M. Durand donne un premier coup de coude à Grainsel, qui, cependant le nez entre le pouce et l'index, laisse échapper une espèce de mugissement sourd et de rire étouffé. « Hélas, mes frères, » reprit le curé, « cet ancien négociant, ce Kernok, c'était aussi un agneau éloigné du bercail. Cet agneau était aussi dans des pays éloignés, et la Providence l'a pris par la main. » « Par la patte, » dit le vieux Durand. « Comparer le capitaine à un agneau, » répondit Grainsel, en mettant sa toque devant sa figure. Le prédicateur continua nonobstant. « La Providence, mes frères, lui a dit aussi, « Elegi non abiecite, je t'ai choisi et je ne t'ai pas repoussé, quoique ta vie ait été agitée. » Il appelle ça agité, murmura Durand en donnant un second coup de coude à Grainsel, qui riposta avec la même énergie, c'est-à-dire d'une force à enfoncer deux côtes à l'ex-charpentier chirurgien canonnier. Oh, il se comprenait. Oui, mes frères, agités, mais après avoir navigué sur une mer orageuse, la poupe de son esquif atteignit un rivage de paix et de repos. La poupe, ça parle marine, dit Durand d'un air méprisant. La proue, donc, la poupe sacristain. Le curé jeta un regard d'indignation sur Durand, répéta avec obstination. Mais la poupe de son esquif atteignit enfin le rivage de paix et de repos, où ce vertueux, ce digne, ce respectable, cet angélique vieillard fit épanouir la fleur de la bienveillance et de la religion. « Est-il bête, ce curé ?» murmura Grenzel. « Bête comme un hareng, » répondit Durand en haussant les épaules. « Ainsi, mes frères, » reprit le prédicateur, « unissez-vous à moi pour remercier le roi des rois de ce qu'il a couronné, celui que nous pleurons, d'une des auréoles de son éternité. »« Amen, » répondirent les assistants. « Dis donc, Grenzel, tu vois le capitaine Kernock coiffé d'une auréole ?» dit maître Durand. Mais Grenzel ne l'écoutait plus, car le curé était descendu de la chaire pour se diriger vers le cimetière où reposait Kernock. Ils arrivèrent devant sa tombe. La figure de Grenzel devint sombre et sévère. Il tenait sa toque dans ses deux mains pendantes et Durand lui serrait le bras en s'essuyant les yeux. Alors le curé dit quelques prières qui furent répétées en chœur par les assistants agenouillés. Puis tout le monde se retira. Durand et Grenzel restèrent seuls. Et le soleil avait déjà disparu depuis longtemps derrière les montagnes de Tréguier, que les deux amis étaient encore assis près du tombeau de Kernock, muets et pensifs, la tête cachée dans leurs mains. Fin.